아마가 미혹하나. 예, 제대모세미모, 내가 미혹하나, 오노 내가 미혹하나. 그러나, 임쿨라, 논익나베우, 에라 리모다 마시아. 왜 le complément? Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour le temps de Yemot HaMashiach. Aval les Olam Haba, mais en ce qui concerne Olam Haba, Aïn Ora'ata Elohim Zelahem. Aucun œil n'a vu, toi seul Dieu, comme a dit le verset précédent. Tu veux la correspondance? Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les Baal et Batim, qui sont en alliance avec les Baal et Batim. Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les Yemot HaMashiach. Les Talmidei Chachamim, eux, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est quoi? Aïn Orat. C'est clair? Vous voyez la différence? Vous suivez l'organisation du Zagoma? L'Iga de Shmuel. Et c'est une controverse par rapport à l'enseignement de Shmuel. De Amar Shmuel, parce que Shmuel a enseigné En Ben Olam Haze Limot HaMashiach et là, Shirvud Malkuot Bilbad. Il n'y a entre le temps de ce monde-ci et le temps de Yemot HaMashiach qu'une seule différence, qui est appelée Shirvud Malkuot. Comment vous traduisez Shirvud Malkuot?
L'affermissement des royaumes.
Hein?
L'affermissement des royaumes.
Le colonialisme. C'est le pshat de Shirvud Malkuot. Mais il faut d'ailleurs le préciser par rapport à Israël, qu'est-ce que ça veut dire. Et nous sommes évidemment dans le temps de la fin de Shirvud Malkuot. Et remarquez bien que le temps de Shirvud Malkuot, que je vous ai appelé simplement pour raccourcir un peu le raisonnement, le terme que vous employez, ce temps de la fin du colonialisme a commencé avec la fin de l'Empire britannique, et qui s'annonce en 1917 avec la déclaration de Balfour.
Comment on peut être certain qu'on y est arrivé? Comment on peut être sûr des choses qu'on dit comme ça? C'est-à-dire qu'une chose qui s'est passée dans l'histoire, on le calque sur ce type de Torah, sur les preuves de la Torah. Comment on peut être sûr comme ça?
Parce que tu crois que la Torah concerne un autre monde que le nôtre?
Non. Par contre, moi aussi, je croyais qu'il était dans le monde, mais moi, j'ai cru qu'ils sont trompés aussi.
Oui.
Pas bien qu'il va trouver.
Oui. Donc, nous sommes en bonne compagnie avec Rabbi Akiva.
Comment?
On est en bonne compagnie avec Rabbi Akiva. C'est un grand. Donc, comprenez, ce à quoi tu fais allusion, c'est un problème de savoir si ce qui est espéré est en train d'arriver. Mais le problème qui est le nôtre, c'est pas de savoir si c'est en train d'arriver, c'est déjà arrivé. Ils sont plus dans le même problème. Est-ce que c'est clair?
Non, je
ne
sais pas.
Bon, écoute, je profite de tes questions pour parler des choses dont tu parles. C'est la Gemara elle-même. Comprends bien une chose. Pendant 2000 ans, nous avons vécu sous le shirbout des goïs. Pendant 2000 ans, nous avons vécu sous le shirbout, l'asservissement du quatrième des Malkuyot. Il y a Arba Malkuyot. Le quatrième, c'est Edo. Oui. Pendant 2000 ans, 1900 et quelques. D'ailleurs, 1900 plus, si vous calculez très bien, de la destruction du Beit Sheni à la proclamation de l'État d'Israël, il y a exactement 1900 plus. À la guerre de Six Jours, à la libération de Jérusalem, il y a exactement 1900 plus. Quête multipliée par 10. Et pendant 2000 ans, on a vécu sous Shirvud Malkuot. Il n'y a pas eu d'indépendance politique juive. Regardez bien le sens des termes, Shirvud Malkuot. Bon, ce Shirvud Malkuot a cessé pour le peuple juif. Et dans des événements qui ont bouleversé le monde. 6 millions de juifs perdus dans la Shoah, et dans la même génération, la fin du Shirvud Malkuot. Il faut vraiment avoir des lunettes mystiques pour pouvoir voir la réalité. C'est ceux qui ne voient pas qui sont mystiques. Vous comprenez ce que je dis? Essayez un peu de vous jouer, si vous voulez. Je veux dire, pendant, entre autres choses, un événement de l'histoire juive que je considère comme évidemment messianique. Nous vivons dans le temps où les Ashkenazim et les Sfaradim se sont rencontrés. Pendant 2000 ans, les Ashkenazim et les Sfaradim ne se sont pas rencontrés. Et nous vivons dans cet temps-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous faire un petit. Et ça, c'est une chose parmi mille autres. Moi, ça me concerne en particulier, puisque je suis Sfaradim, je m'appelle Ashkenazim. je vous citerai un. un enseignement, à la manière dont Levi Nachmani l'a enseigné à l'exil. Il y a un grand verset des prophètes, « Asof Asifem Neumash ». Je les rassemblerai. « Asof Asifem ». Il y en a une petite indication dans le temps. Regardez bien la racine « Asof ». Alors, ça veut dire « Ashkenazi », « Samarpe », ça veut dire « Sforam ». On les met ensemble, c'est « Asif ». Je t'ai cité là-bas, Levi Nachmani. Tu as un problème avec lui. au fond, à quoi ça se réfère ? Un peu à la discussion tout à l'heure, qu'est-ce qu'un tabou ? Non, mais en court-circuitant tout cela, essayez de comprendre une chose. C'est que cette Gemara, quand tu dis ta question, la Torah, ça concerne notre monde, notre histoire. Et au fond, l'effort qu'il y a à faire est très simple et à la fois très difficile. Très simple quand il arrive au bout, mais très difficile quand il n'arrive pas au bout. C'est de comprendre comment l'enseignement de la Torah nous concerne et comment nous sommes concernés par l'enseignement de la Torah. Okay? Alors, une minute, je n'ai pas fini avec. Le scrupule que tu as exprimé est réel, et plus que honorable, il est normal. Peut-être on se trompe. Oui, peut-être on se trompe quand il s'agit d'idées, mais quand il s'agit de faits, quand il s'agit d'événements, on ne se trompe pas, on voit ou on ne voit pas. Tu comprends ce que je dis ? Il ne s'agit pas ici de raisonnement, je ne vous parle pas de croyance, je vous parle de ce qui arrive dans la réalité. Alors, il faut arriver à faire le lien. Tu vas me dire, oui, mais c'est arbitraire, on peut se tromper, même Rabbi Akiva se tromper. Alors c'est là qu'intervient la dimension de la humilité. Rabbi Akiva peut se tromper, mais après nous voir, on ne peut pas se tromper. Okay? Et alors, lorsqu'il arrive cela, que pendant 2000 ans, les Juifs ne sont pas revenus à Jérusalem, et que maintenant ils reviennent, alors vous croyez que le bon Dieu joue au lit ? Vous comprenez le problème ? L'explication, ce n'est pas celui qui croit qui doit la donner. C'est celui qui ne croit pas qui doit la donner. Pourquoi il ne croit pas ? Alors qu'il voit. Et c'est peut-être qu'il ne voit pas. Par exemple, on prend un encore. Mais réfléchis un peu à ça. Quelqu'un vous le demande ? Oui.
Juste un rappel de ce que nous a enseigné une fois.
Plus fort.
Votre professeur Rabat Rapporteur nous avait dit que sur le verset 8, je crois, du chapitre 2 de Shir HaShirim, il y avait un Rashi qui expliquait sur Medaleg Arim Kafet Al-Gmaot que, en fait, c'était l'asservissement, en gros, du colonialisme, l'asservissement aux différentes nations d'Israël se terminerait par, et puis alors, l'ensemble de lettres assez mystérieux, c'est Britannia, on peut très bien lire Britannia. Quelle lettre de Britannia ?
Oui.
Donc la dernière botte serait la fin du Britannia.
La dernière ?
Botte.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Et non, revenons au pchat simple élémentaire. Qu'est-ce que nous dit Shmuel ici dans cette démarche ? D'après Shmuel, bon, il y a une controverse avec l'enseignement précédent. Nous verrons comment. Mais d'après Shmuel, quelle différence il y a entre Olam Hazeh et Yemot HaMashiach ? C'est la fin de la galoute. Vraiment, nous ? Vous y êtes ? Bon, maintenant je vais vous citer le Shulchan Aruch. Admettons que tous les Juifs qui en Israël se trouvent. Admettons. Le Shulchan Aruch est très clair. Dès qu'un Juif est en danger, il faut être avec lui. Même s'il s'est mis en danger par témérité. Okay ? Mais non seulement c'est le cinquième des Juifs qui sont en danger là-bas, mais c'est le clan Israël. Al Eretz Avot, la première fois qu'on a des timbres en hébreu, ça veut dire Briat Haolam, Maase Bereshit, Tishem Minitra Alecha, c'est quand même pas n'importe quelle communauté celle-là. Donc, même s'ils se sont trompés, ça engage le peuple juif tout entier. Shulchan Aruch, c'est pas Nevoa. Hein? Réfléchissez bien à ça.
Vous avez dit tout à l'heure, on voit ou on ne voit pas. Mais il est bien évident que si on regarde les faits, on a en soi une petite flamme qui est en train de briller, on a peut-être un sentiment pour être Israël. Mais d'autre part, où ça ne colle plus, disons, avec la réalité, c'est que encore beaucoup des rabbinim, des vrais rabbinim, ne sont pas toujours.
Tu vois, tu interprètes. Quelle différence entre des rabbanim et des vrais rabbanim?
Je ne sais pas vous le dire. Comment? Pas moi de donner la définition.
Voilà, pourquoi t'aimes pas?
Voilà, si vous voulez, on peut la donner. Un vrai, pour moi, quelqu'un de rab qui est valable, c'est quelqu'un.
Qui va prendre les registres.
Qui vit dans l'herba Moshe Al-Acha et qui a avec lui plusieurs centaines de disciples, c'est-à-dire qui est suivi par une grande majorité. Pour moi, c'est ça la définition d'un rab, d'un vrai rab. Alors, je crois que, si vous avez dit tout à l'heure, si on ne voit pas la réalité, peut-être, mais je veux dire qu'on est quand même freiné par le fait que c'est vrai rabbanim.
Cher ami, mais cette définition, elle est la même pour les rabbanim des Rites d'Israël. Ils sont aussi dans le barbeau de Halakha, ils ont des centaines de disciples avec eux. Donc, ce n'est pas ça le critère entre eux. Ça y est ? Deux, ça fait quatre. Hein ? Réfléchis bien avant de parler. Et parce qu'il y a risque de calomnie ou les uns et les autres. Ce que je veux te dire, c'est ceci. On n'a pas une petite flamme pour Eric Israël. On n'a pas une inclination pour Eric Israël. Ou on est d'Eric Israël ou on n'est pas d'Eric Israël. J'ai une inclination pour la Torah. La Torah, c'est ma neshama. J'ai une inclination pour Eric Israël. Eric Israël, c'est mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai un sentiment pour l'Église d'Israël? De quoi on parle? Les goïms ont un sentiment pour l'Église d'Israël, pas les juifs. C'est là que les choses vont chercher.
C'est encore beaucoup de l'Ima Moshia. Quand vous dites qu'avec le progrès technique, etc., quand vous dites qu'avec le progrès technique, jour en jour, on arrive comme ça à l'Ima Moshia, comment vous pouvez penser ça?
On pourrait.
Justement. Comment vous pouvez penser ça alors que justement on fait deux choses en même temps? Parce que avec le progrès technique, d'accord, on avance des frigidaires, mais également.
Quand je dis les frigidaires parce que j'aime bien boire le Shabbat. J'aurais pu dire aussi les marmites norvégiennes pour la safina. Et alors?
Justement, je reprends un exemple, donc on fabrique des frigidaires de plus en plus perfectionnés, mais en même temps, on fabrique des bombes atomiques. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas concevoir que le progrès technique amène la Yama Machia, puisqu'on fait deux choses à la fois. Tandis que justement, la Yama Machia, ça serait une seule.
Très bien. Alors, j'explique. Le problème, c'est absolument raison. Tout dépend du mérite moral. C'est-à-dire, avec la même capacité technique, c'est où la catastrophe?
C'est pour ça qu'il y a
une
catastrophe.
Et si jamais c'est la catastrophe?
Mais.
Il y aura quand même la Yama Machia un jour. Alors, si jamais c'est la catastrophe.
Attends, mais pas pour nous, Gétrazer. Enfin, pas pour eux. Si on ne mélange pas deux idées à la fois.
Non, mais justement, alors vous dites que c'est une arme à double tranchant. Alors imaginez, Shalom, qu'on utilise de mauvais tranchants et qu'il y a la bombe atomique.
Justement.
Alors les Yémachia vont bien arriver, alors comment ils vont arriver? Ça n'a pas rapport au lieu technique.
Non, écoute, je vais remettre le raisonnement un peu en ordre. Au fond, tu as dit à peu près, peut-être même exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une capacité technique qui pourrait faire venir le bonheur pour toute l'humanité. Okay. Mais de quoi ça dépend? Ça dépend, est-ce qu'il y a shalom ou pas? Okay. Ça dépend du mérite moral. Mais la capacité technique, elle est là. Et tu as raison de dire, cette capacité technique, elle est dangereuse, elle est en début, c'est au voilà. Okay. Et si on l'utilise pour le mal, alors c'est la catastrophe. Okay. Tu as absolument raison, mais ce que je voulais signaler, c'est que la possibilité est là. Et c'est peut-être la première fois de l'histoire que l'on voit que c'est possible réellement. Jusque-là, c'était des rêves. Je vais donner un exemple. La Gemara dit très clairement, dans le temps de Yemot HaMashiach, les petits pains au chocolat pousseront sur les arbres. Marqué, dans la mythologie, on parle des arbres à pain. Pas dans la mythologie, dans l'ethnologie, mais les arbres à pain. Mais il y a une possibilité qu'on commence à entrevoir concrètement, réellement, que les techniques de l'agriculture, finalement, feront advenir, arriver, ces récoltes miraculeuses dont la Torah nous parle en parlant de Rechnam. Et simplement un exemple terrassé. Comprenez bien une chose. Nous sommes des hommes d'une Torah qui parle d'un Dieu qui est le Dieu du ciel et de la terre. La galoute nous a malheureusement habitués à ne connaître que le Dieu du ciel. Mais nous disons Abinu Sheva Shamaim Uba. Bereshit Bar Elokim et Hashamaim Ve'etav. Sauf Ma'asé Ve Machashava Tchila. La terre est plus importante que le ciel. Et alors nous avons été coupés de la terre pendant 2000 ans, parce que nous étions sur la terre des autres. Mais vous savez, Chutz La'aretz, c'est Shamaïm. Ici, vous êtes dans le ciel, pas sur terre. C'est Chutz La'aretz, c'est Shamaïm. Entendez ça en hébreu. Le grand devinat dit, les goïms sont des célestes. Mais nous sommes les hommes du monde que Dieu a créé.
Mais à ce moment-là, si jamais bon, nous désirons utiliser le mauvais tranchant, à vous beaucoup, nous aimerions quand même aller vers Moshiach, parmi d'autres, tout à fait une autre voie à ce moment-là. C'est pas du tout par l'intermédiaire du projet technique, puisque ce projet technique, on l'aurait déjà utilisé. Je sais pas, si jamais, par exemple, on puisse faire du plat de terre, bon,
ben, les Chinois,
ça, il
n'y en aura
plus.
Et
les
Chinois,
ils
arriveront
quand même bien un jour. Alors, je veux dire,
par quel
biais, vous pensez
qu'ils arriveront à ce moment-là? Alors, non, je vais préciser. Imaginons, que Dieu préserve, que l'humanité ne mérite pas. Et je dis bien l'humanité d'or, ça veut dire le dos de l'humanité entière. Alors, la planète va sauter, sauf en hérite Israël. C'est ce qu'il y a, c'est ce, comment, c'est ça la Emouna d'Israël. Et nous croyons en ça depuis 6000 ans. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple que je donne. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un temps où nous sommes interpellés par l'histoire. Est-ce que tu crois sérieusement en ce en quoi tu crois? C'est maintenant qu'il faut faire la preuve. Je pense que c'est clair. Rassurez-vous, nous croyons sérieusement en ce en quoi nous croyons. Mais un de mes maîtres m'a donné une phrase à dire. Quand il y a une tornade quelque part, quand il y a un cyclone quelque part, il y a un seul endroit où on est en sécurité, c'est au milieu. Tout le monde sait ça. Je me rappelle d'ailleurs mes exercices à l'armée. Quand on lance une grenade, il faut se mettre juste en dessous. C'est là qu'on est à l'abri. Alors, aujourd'hui, dans le monde, il y a un cyclone. Et le centre du cyclone, c'est où? C'est Jérusalem. C'est là-bas seulement qu'on est à l'abri. Alors, vous allez me dire, bon, si jamais... il ne faut pas arriver à ce cauchemar. Mais si jamais la bombe atomique, les nuages atomiques, ça atteint partout, oui. Mais nous avons l'âge de Khat. Nous ne savons pas. Mais le bon Dieu, je pense. Eh bien, ça atteindra partout, sans péritifs. Vous allez me dire, mais tu es fou? Non, je suis juif. Peut-être que c'est la même chose. Mais, vous croyez que c'est par hasard que l'humanité tout entière nous dispute cette terre-là? Pourquoi c'est par hasard? C'est comme s'il savait sans savoir que c'est la terre de refuge. Et c'est la terre de refuge depuis Adam Arishon. Ça ne vous a pas frappé? Le monde entier verrait Israël. Il n'y a que les juifs qui ne la veulent pas. Qu'est-ce que tu veux demander?
J'ai demandé, il y a un rabbin qui m'a dit que certaines gouttes de Kdosha étaient tombées chez les goyim, ouais. Et que notre rôle en galoute, le rôle des yodim en galoute, c'était justement de rattraper ces gouttes de Kdosha.
Disons des étincelles.
Des étincelles, oui, c'est le terme. Et la question que je me pose, c'est que si on va en Eretz Israël, comment on va pouvoir rattraper ces gouttes des Kdosha si on n'est pas sur le.
Bon. Oui, c'est ce qu'on appelle des alibis. Hein. Des alibis. Alors, je vais te dire à quoi ça ressemble. Et après, je répondrai à ta question quand même. Ça ressemble à une chose que j'aime bien expliquer. Et il y a aussi une autre raison, il y a beaucoup d'autres raisons là-dedans. Le vrai problème, c'est que la galoute a un sens, par exemple celui-là, c'est sûr que la galoute a un sens. Le bon Dieu joue pour lui, même quand il nous envoie en galoute. Mais le vrai problème, c'est est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Est-ce que gavarnou ou pas gavarnou? Alors, tu comprends ma question?
Oui.
Et peut-être que c'est fini, mais je reviendrai là-dessus. Peut-être qu'on a fini avec ces étincelles de Saint-Denis. Vous croyez vraiment qu'il en reste encore chez les goyim? Ça y est, on a appris les mathématiques chez eux, je m'en rends compte. Mais, je vous parie sur une autre dimension. On dit aussi, la galoute, c'est une convalescence. Enfin, on a été malade, on est allé à l'hôpital. Alors imaginez qu'on a envoyé quelqu'un à l'hôpital avec une valise de médicaments. Et puis un jour, le médecin vient et dit, ça y est, t'es guéri. Il dit, non, j'ai encore des médicaments, je reste à l'hôpital. C'est une histoire de fou. Ça y est, c'est clair. J'envoie au bagne, aux travaux forcés, là-bas il y a des diamants, on va les chercher. Alors ça y est, je t'ai ramené les diamants. Et c'est le bon Dieu qui nous appelle. Okay. Allez, ça y est, reviens. Et je dis, non, j'ai encore à chercher des diamants. Alors c'est les diamants que tu aimes ou moi? Essayez un peu de comprendre cette histoire de fou. Pendant 2000 ans, on a dit, mais Sana Abba Birushalayim, mon Dieu, je t'en prie. Et puis alors, avec une persévérance extraordinaire, on continue à dire, Sana Abba Birushalayim, mais en faisant le tour de la planète. Voilà. Première étape, le Canada, deuxième, l'Indonésie, troisièmement, le Japon, après, on verra si on revient par l'Inde. Ouais, quoi, un peu. Vous comprenez de quoi je parle?
Ah. On peut dire aussi que dans les temps messianiques, on se voit que tous les goyim vont prendre Jérusalem, donc on peut amener leurs étincelles à
Hiroshima. Oui. De toute façon, c'est écrit dans les textes. Hein. Bon, mais on n'en est pas encore là. Mais je veux dire autre chose. Aujourd'hui, grâce au progrès de la technique, il y a les masses médias. Et puis il peut y avoir correspondance entre Israël et le monde entier, sans que pour cela, les membres du peuple d'Israël doivent être otages chez les goyim en tant que juifs. On peut aussi voyager comme israélien. Je ne parle pas de la Yérida, c'est encore autre chose. Vous comprenez, je veux dire, tout ce que vous dites est vrai. C'est pas ça qui est en question. La question c'est, dans notre Gemara, est-ce que c'est fini ou pas? Et voilà ce que dit Shmuel. Le critère énorme, massif, c'est chez vous de Montreux. Or, chez vous de Montreux, vous voyez que tout à l'heure, il y a celui qui dit le mot la fin de l'ère colonialiste, et on est là-dedans. La fin de Gomarot, c'est arrivé. Depuis 2000 ans, il n'y avait pas, même chez les Israël, c'est le terme du Rambam, hein, de Maïmonide, il n'y avait pas même Shalom en Israël, il y a même Shalom en Israël. Vous avez des problèmes avec le Rambam? Vous avez des problèmes avec Maïmonide? Est-ce que c'est clair?
Tu as dit tout à l'heure, les faits sont les faits, on ne peut pas les nier, les discuter, c'est évident. Hein. C'est Revel qui a dit, je crois, un fait a toujours raison. Même s'il paraît, même s'il est incompréhensible.
À lui, il va venir à votre secours. Hein.
Je suis attentif. Bon, tu as dit aussi, Rabbi Akiva peut se tromper, pas le bourreau, pas se tromper.
Rabbi Akiva peut se tromper dans les calculs.
Je suis évidemment absolument d'accord avec ces deux phrases. Tu as dit également, si, même si une partie d'Israël se trompe, là où Israël est en danger, on peut être avec lui. Absolument d'accord, je tenais à préciser d'abord au départ sur ces trois points. Mais, première question, c'est quand même, disons, assez éprouvant de faire réfléchir, de dire, qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Akiva peut se tromper. Un vrai Tamir Raham, je crois que tout le monde est d'accord, c'est un vrai Tamir Raham, qu'est-ce que ça veut dire qu'un Tamir peut se tromper? Donc si un Tamir peut se tromper, Kal Vachomer, les Rabbi Akiva d'aujourd'hui.
Bonne question. Attendez, je finis avec
ça. Je pose des questions ensemble.
Non, mais on pose moins
une parole.
Une parole, je ne sais pas si on a le temps des autres. Bon. C'est-à-dire, voilà, c'est le problème. Des époques différentes qui auraient pu être le commencement des mots de Mashiach. Et en réalité, Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, il y a une clause qui n'a pas joué, le mérite de la génération. Or, donc la question aujourd'hui pour nous est de savoir si nous sommes en un temps d'anticipation, anticipation, je dis tout de suite le mot péjoratif, n'est-ce pas, faute d'anticipation. Si nous sommes dans un temps de Bimera Beyamenu, Ba'agala, Bisman Karib, venu par le mérite, ou si c'est un temps de Be'ita Arishena, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clause qu'on mérite ou pas. Hein? C'est ça le fond du problème. Pas seulement au temps de Rabbi Akiva, il y a eu d'autres temps où c'était possible, où d'autres Rabbi Akiva ont dit c'est maintenant si on mérite. Hein? Kalou Kola Kitsin. Il y a eu énormément de temps de Kitsin où c'était possible, suivant les occurrences de l'histoire universelle. Hein? Et puis, chaque fois, on n'a pas mérité, on n'a pas mérité, on n'a pas mérité. Et alors, il y a l'autre enseignement de la Gemara. Et quand tous ces temps où c'est possible, et on les a épuisés sans mériter, arrivera Ketz Kolakitsin, Ketz Megoulé, là où il n'y a plus question de mérite. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, il faut dire que notre génération n'a pas mérité cette fin des temps. Mais c'est arrivé, c'est pour ça qu'on est sûr, parce que ça ne vient pas par le mérite. Okay? La preuve. Beaucoup de Talmud Chachamim ont discuté quel mérite, de quel mérite il s'agit. Du mérite de cette mitzvah-là, de Yeshua avec. Okay? Et je reviens à ce qu'il disait à propos de Be'ita avec un test. On y est allé à coups de pied. Pas? C'est Mamash Be'ita. C'est Mamash Be'ita. Okay? Il faut quand même ouvrir les yeux sur les faits. Il y a un mérite d'être, que nous avons tenu le coup pendant la galoute, Et c'est un mérite colossal. Israël existe, le peuple juif existe. C'est ça son mérite. Et il ne s'est pas laissé disparaître, il ne s'est pas laissé annuler. Mais il n'a pas mérité par lui-même Eretz Israël. Eretz Israël lui a été donné par l'histoire. Vous entendrez les gens qui vont dire, oui, on a mérité, c'est nous, c'est notre travail, les kibbutzim, les halotim, tout ça c'est tantan. À l'échelle globale de l'événement, ça nous a été donné par force. Ah, tu veux pas? Eh bien, ça doit arriver, je te le donne quand même, mais c'est à toi puisque tu existes encore. C'est ça le mérite, c'est le mérite d'exister. Regardez bien ce qui se passe depuis 48. Voilà. Chaque fois que l'histoire nous donne un peu plus, on veut rentrer, et on n'arrive pas à rentrer. Vous remarquez ça qu'on n'arrive pas à rentrer? Vous remarquez? Regardez encore le Atoubi Shabbat. Okay. On était prêt à rendre tout le Sinaï à Sadat. Laisse-nous quelques villages juifs qui disent un tout petit peu Shundavar. Tintin, viens à côté du Sinaï qui d'ailleurs ne lui appartient pas, le Sinaï. Alors elle dit non, je veux rien, je veux tout. Vous avez remarqué ça? Et même qu'il est allé appeler Carter au secours à Washington, et Carter lui a dit j'ai pas le temps. Et remarquez ça que depuis 48, voilà, ça se passe de la même manière. Je vais le résumer très simplement. En 48, le peuple juif ne voulait pas de Médina. Voilà. Vous interrogerez les gens qui étaient adultes en 48. Ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que ces 600 000 sionistes du Yishuv qui nous cassent les pieds? Laissez-nous être français, laissez-nous être anglais, laissez-nous être juifs à ce point. Et puis, dans nos Al-Bahamot, avec nos 110. Voilà. Ils ne voulaient pas. Et alors, ça nous a été imposé. Et irréversiblement, à partir de 48, le peuple juif, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est le peuple juif de l'État d'Israël. Et il ne veut pas, et c'est quand même. En 67, Hussein nous a donné le territoire. Vous vous rappelez ce qui est arrivé? Il est devenu fou, il n'y avait aucun problème avec la Jordanie, c'était l'Égypte et la Syrie qui voulaient attaquer. On a téléphoné à Hussein, bouge pas, reste tranquille. Et Hussein a répondu au téléphone, non, moi je sais ce qui est écrit dans vos prophéties, je dois vous rendre le territoire, je vous le rends. Voilà. Imprudent, comme Dieu. Et alors, depuis 67, tous les Israéliens responsables me supplient, reprends, on te donne tout. Et le Mapaï dit on te donne ça, le Mapaï dit on te donne plus. Et le Maspen dit on te donne encore plus. Reprends. Et il ne peut pas, il ne veut pas, il veut, il ne peut pas, il veut. Et tout ça, ça nous est imposé. Je ne sais pas si vous comprenez bien ça. Vous croyez que les hommes sont en train de faire l'histoire pareille. Alors, continue.
Donc, il dit, Rabbi Akiva peut se tromper. Enfin, vous ne pouvez pas se tromper, évidemment. Mais le risque, c'est d'attribuer à Kadoshbourou, ce qui est le fait de Rabbi Akiva. Et c'est ce que...
J'ai répondu à l'avance.
Non, c'est ce que j'ai l'impression... que
les sionistes sont.
Que le Rafou et ses élèves sont en train de faire. Et si tu me permets, je paraphraserai la Gemara qui s'applique, le verset qui s'applique à Olam Haba et pas à Yomat HaMashiach. Je le paraphraserai à Inorata Elokim Zotera. Alors, c'est pas notre œil voit, non, c'est Dieu seul qui décide. Quand c'est le quête, c'est Dieu seul qui décide, c'est pas nous qui croyons voir dans les événements la main de Dieu.
Je te réponds. C'est pas le Rav Kook qui a déclenché.
Pas de l'interprétation.
Non, c'est pas le Rav Kook qui a déclenché le fait que pendant 2000 ans les Juifs ne sont pas revenus, maintenant ils reviennent. Le Rav Kook a dit ce qui se passe, c'est ça que nous attendions.
Oui.
Bon. Maintenant, d'autre part, c'est un grand compliment pour le Rav Kook. C'est la bilboule de Rabbi Akiva de la fin des temps. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais,
comme t'as mis Tracha.
Oui, bien sûr. Non, mais je vais te dire, voilà en quoi j'avais répondu tout à l'heure. C'est que nous ne sommes plus dans des événements du type des différentes kitsines que par le mérite nous pourrions mériter. Comprenez bien que nous sommes dans un autre ordre d'événements. C'est plus... une question de calcul que, et vous savez, le nombre de Tamil Khamem à travers les siècles, le Mashiach pourrait venir en telle année, le Mashiach pourrait venir en telle année, il aurait pu, mais on n'a pas mérité. Maintenant, c'est plus une question de calcul. L'événement se passe. C'est d'une autre envergure. Bien, vous allez là.
Je voudrais qu'on revienne un peu à l'histoire de Rabbi Akiva et savoir quels étaient exactement les éléments qu'il avait à l'époque pour déduire ce qu'il a déduit. Et les comparer au Véo Vasconel que.
Voilà. Et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a jugé que nous étions à l'époque où Rome était en train de conquérir la Judée et d'opprimer la Judée. Rabbi Akiva a jugé. Et puis, Rabban Ben Zakkai était d'une autre chita. Rabbi Akiva a jugé que sous le gouvernement des Goïms, la Torah risque de disparaître. Et que par conséquent, la première étape, et c'est pourquoi, de façon très précise, il a vu dans Bar Kokhba qui était capable de faire la guerre contre les Romains, la première étape, c'est l'indépendance politique, c'est l'indépendance nationale. Qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach? Ça veut dire quand Israël est indépendant sur sa terre. C'est comme ça que ça commence. Vous comprenez, il ne faut pas se tromper entre Machiav ben Yosef et Machiav ben David. Oui. Et alors, la tradition nous enseigne très clairement, hein, c'est que Bar Kokhba a lancé la révolte contre les Romains et que finalement, les Juifs ont été vaincus parce qu'ils étaient divisés entre eux. Ça veut dire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de mérite moral. Mais, encore une fois, l'événement que nous vivons, et ça je réponds en même temps à Michel, n'est pas du même ordre. Il n'est pas du même ordre. Nous sommes en un temps de Kalou Kolakitsin. Lisez bien les chalots de la paracha de Kitavo. Et quand vous arriveront, tous ces malheurs que je ne vous souhaite pas, mais qui vous arriveront. Et quand vous arriveront, qui est Tsara, il est Yaakov, Mena Yevashéa. Et quand vous arriveront, tout cela, alors vous verrez que je vous ramènerai. Bon, nous sommes en train de vivre cela. C'est plus une question de mérite ou pas mérite, alors ça vient un peu avant, ça vient un peu après. Ce sont des événements qui nous sont imposés d'en haut. Et je pense que c'est clair. Mais j'ai une dernière réponse à te donner pour te consoler. Et malheureusement, nous n'avons plus le temps, c'est ceci. C'est que tu as commencé par poser une question importante et on ne peut pas la laisser sans réponse. Il y a des rabbinimes, ne discutons que vrai et faux rabbinimes. Il y a des rabbinimes qui pensent qu'il vaut mieux rester en Galilée. C'est parce qu'ils sont fidèles à l'enseignement de leur maître, qui ont en général enseigné dans les temps précédents. Il y a une clause et un principe qui est très important dans le monde de la tradition, on n'a jamais le droit de contredire son maître. Et par conséquent, on n'a jamais le droit de contredire son maître. On n'a jamais le droit de faire partie d'une marloquette en étant de la vie de celui qui est en marloquette avec son maître. Je parle de son maître. Et alors, lorsqu'on a reçu un certain enseignement de son maître, on y reste fidèle. Et c'est un poids tel que ça peut empêcher de voir ce qui se passe. Voilà ce que je vais expliquer. Malheureusement, j'ai peu de temps pour l'expliquer. Mais pour vous dire que l'explication est honorable. Ce n'est pas du tout une explication méprisante. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où il était normal et vraisemblable de mettre en doute l'authenticité de ce qui se passait. Mais l'irréversibilité des événements est tellement irréversible que, alors voilà dans quelle impasse on se trouve. C'est clair? C'est arrivé d'une manière analogue au moment de l'apparition du chassidisme. Au moment de l'apparition du chassidisme, il y avait de quoi craindre, douter, mettre en suspicion... À cause de ce qui s'était passé avec Charlotte Haïti. A posteriori, la chassidoute a montré qu'ils étaient cachés, qu'ils sont cachés. Au moment de l'apparition du chéri, il y avait de quoi douter, il y avait de quoi soupçonner. Imaginez des juifs déjudaïsés qui disent le temps est arrivé. Alors on a dit à qui vous parlez, de quoi vous parlez, qui vous aide. Mais ensuite, les événements dans le monde sont irréversibles. Jérusalem a été délivrée quand on l'attendait, Bechenala, et tout ce qui s'est passé avant. Ce qui passera après, vous verrez, si Dieu veut. Mais vous comprenez ce qu'il y a, c'est que l'événement a. Alors, il faut donc reprendre tout ce problème sur d'autres critères. Je terminerai juste sur cette phrase pour me rattacher à la Gemara. L'opinion de Shmuel est celle-là. Dès qu'il y a la fin de Shirbul Nafiot, c'est le signe que c'est irréversible. C'est le signe que commence l'Yemot HaMashiach. Mais quoi? Pas encore l'Yemot HaMashiach de la transfiguration du Mashiach Ben David, il s'agit de Yemot HaMashiach du Ben Yosef. Akiva s'appelait Akiva Ben Yosef. Bon, alors pas de choses. Fin de la 12e bande.